la Constitution, non seulement elle doit être toujours votée lorsqu'il y a une proposition, on ne peut pas changer la Constitution sans vote, mais les citoyens peuvent initier un changement constitutionnel. C'est ou plus encore précisément quand les citoyens initient un changement, pas pour protester par rapport à une loi, mais par un changement positif, eh bien, ce changement a automatiquement valeur constitutionnelle. C'est-à-dire, le Parlement, tout seul, ne pourra pas le changer. Vous voyez, c'est une inversion des rôles. On est en train de dire, on a un système dans lequel les décisions prises par les citoyens sont de facto les décisions les plus importantes. Et le Parlement, il doit s'y faire, et il doit arbitrer là-dedans. Donc, on a ce rite qui s'appelle constituant, on pense que c'est ça qu'il faut faire en France. On n'a pas encore besoin d'un veto. On aura besoin d'un veto, c'est sûr, pour contester les lois. Mais le veto peut se faire par initiative et référendum, n'est-ce pas ? Donc, on ne veut pas dire à la France, aux Français comment leur pays doit marcher. On veut juste que les Français puissent eux-mêmes définir comment leur système marche. Et pour cela, il faut qu'il ait le droit d'initier des changements et de les voter et que ces changements soient constitutionnels, c'est-à-dire soient au-dessus de tout ce qui est possible. C'est des systèmes qui marchent, qui existent. Quand je vous citais la Californie, par exemple, la Californie, c'est qu'un État dans un grand pays, donc c'est limité, mais quand même, c'est un système très fédéral et tous les États ont une constitution. La Californie, l'initiative des Californiens change la constitution californienne. Et donc, ils décident de leurs propres règles du jeu, un peu dans les limites de l'État fédéral. Donc, c'est moins intéressant, mais il faut quand même remarquer qu'en ce moment, même, ils sont en train de monter une pétition pour sortir des États-Unis. Donc, ce n'est pas tout à fait comme les mêmes compétences que la Bretagne non plus. Alors, évidemment, comme vous dites ça, vous dites, bon, bah, les décisions sont prises par les citoyens. La première question qui se pose, c'est de dire, mais ok, est-ce que je veux mettre mon destin dans les mains de la majorité des citoyens? Et là, il y a l'embarras du choix, parce que les médias adorent faire ça, sur les votations non, à la con qui ont été faites dans l'histoire, en occultant tous les autres, bien sûr, parce que nous, on a la liste complète des votations. Alors, tout de suite, par exemple, veuillez noter que en Suisse, les droits de vote des femmes au niveau fédéral est arrivé en 1972. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient être votés par les garçons. Eh oui. Alors, on dit, oui, voilà, ça c'est une limite du système quand même. Regardez les garçons en Suisse. Si on donne le pouvoir aux votants, ben, les non-votants, bonjour, ils n'auront jamais les droits. Mais, évidemment, quand on prend ce cas-là, c'est vrai. Les Suisses ont un côté un peu conservateur. Mais quand on prend le Colorado, lui, a donné le vote féminin à travers un référendum, donc une initiative citoyenne, les votants étaient que les garçons, et le vote des femmes a été obtenu en 1893, c'est-à-dire 50 ans avant la France, non ? On peut prendre d'autres non ayant droit en Uruguay. C'est le seul pays au monde dans lequel les étrangers résidents peuvent voter. C'est un système dans les mains des citoyens. Donc, la critique facile un peu de la majorité, il faut voir un peu l'ensemble des décisions qui sont prises. Et, à vrai dire, quelque chose qui est très flagrant, c'est que ces systèmes-là sont extrêmement plus stables que les nôtres. C'est-à-dire que pendant que nous, on avait régulièrement les systèmes représentatifs, on a régulièrement la menace de devenir une autocratie. On l'avait dans les années 30, n'est-ce pas ? On la retrouve aujourd'hui avec de plus en plus de démocraties qui regressent par des moyens tout à fait légaux. Et ben, on trouve qu'au contraire, les pays régis par ce principe très simple que l'initiative revient à tous les citoyens et le vote aussi pour toutes les questions les plus importantes, eh bien, ils connaissent une stabilité démocratique depuis extrêmement longtemps, avec justement l'exception des Uruguayens qui ont subi un coup d'État, comme presque tous les pays d'Amérique latine par les militaires, mais que ça a duré moins qu'ailleurs, parce que les militaires, pour changer la Constitution, ils étaient obligés de faire voter les gens. C'était dans la Constitution uruguayenne. Donc ils ont fait voter les gens, et les gens ont dit « Non, on ne veut pas votre Constitution ». Et donc l'Uruguay est redevenu démocratique, a remis ce principe, et depuis, bon, c'est un pays qui est d'une stabilité incroyable. Mais quelque chose qui n'est pas intuitif, et maintenant j'arrête et je te fais parler, c'est que c'est aussi un pays qui est riche en Amérique latine et qui est particulièrement égalitaire pour l'Amérique latine. Alors on dit oui, bon, c'est peut-être un hasard, mais alors c'est vrai que la Suisse n'est pas particulièrement égalitaire, mais on aurait tort de penser qu'elle n'est pas égalitaire. Ils payent moins d'impôts, les Suisses, que les Français. Mais les impôts vont plus des riches aux pauvres. Chez nous, ça va des moyens aux moyens. Déclarés à moi, voilà, les impôts. Par exemple, les allocations familiales, des non-ayants enfants à des gens qui ont enfants. Donc, la structure est plus verticale. Donc, mais ce n'est pas un pays non plus qui est particulièrement égalitaire. Il est très riche. Et les systèmes américains aussi. Donc, c'est des systèmes aussi performants d'un point de vue économique. Après, ils peuvent être plus ou moins socialistes, plus ou moins capitalistes, parce qu'après, ça dépend au final de comment les gens votent, où est la majorité des gens. Mais ont quand même en commun très, très efficace. Donc, et ça, c'est des choses connues aussi. C'est des choses qui sont étudiées, tout simplement parce que, par exemple, il y a la moitié des Américains qui peuvent le faire, enfin, un quart qui peut changer la Constitution, un quart qui peut voter, initier des lois, mais pas constitutionnelles, et la moitié qui ne peuvent pas aux États-Unis. Donc c'est quand même assez facile de comparer qu'est-ce qui se passe chez ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et c'est vrai qu'être gouverné par, disons, l'arbitrage final des citoyens, ce n'est pas seulement plus juste, mais c'est aussi plus efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, nous vivons dans un pays qui ressemble au pays des rois par rapport à un système qui est beaucoup plus développé. Et tout cela, le changer, ce n'est pas très compliqué, si ce n'est qu'il faut l'accord des élus. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Clara ?
Non, mais je voulais... En fait, je me disais, peut-être vous avez... Parce que c'est vrai que le sujet de la démocratie directe et du RIC en particulier, comme disait Raoul, comme c'est très très difficile de se dire publiquement, moi je suis contre la démocratie, en fait, j'entendrai jamais quelqu'un dire ça, on dira toujours oui mais les gens votent mal, oui mais ça fait des décisions un peu farfelues, et alors là, bien sûr, on peut trier des décisions qui ont été prises parce que les gens ont le droit de se tromper, les élus le font. On le note très peu, mais en tout cas, les gens le notent tout de suite. Et je m'étais dit, je voulais faire un petit quiz. Nous, on sait... Moi, je suis allée regarder tous les pays où les citoyens ont ce droit hein, de proposer des changements constitutionnels et de les voter. Et c'est des pays très, très divers. Je vous disais, Micronésie, Palau, c'est aussi une île d'Océanie. C'est d'ailleurs pour ça, quand on fait une conférence comme ça en Nouvelle-Calédonie, on a plein de gens, parce qu'ils savent que les îles d'à côté sont bien plus démocratiques et qu'en fait... Être sous contrôle français, c'est être sous contrôle autoritaire, ces territoires-là. L'Uruguay, la Suisse, le Liechtenstein et la moitié des États aux États-Unis, plutôt à l'ouest, hein, donc l'Oregon, la Californie.